au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne-Françoise Dumont.
Bonjour Jean Prévost.
Bonjour Anne-Françoise.
Nous nous retrouvons aujourd'hui avec un visage bifronce, à la Janus. Gai d'un côté, triste de l'autre. Gai en effet, parce que nous sommes toujours heureux d'être ensemble pour parler de nos chers dictionnaires. Et triste parce que cette émission, la sixième, est la dernière de notre série, le dictionnaire hier et toujours. Vous allez, Jean, nous présenter les 8e et 9e éditions du Dictionnaire de l'Académie. 1932-1935, 8e édition. 1986-1992, 9e édition, dont ne sont parus que les deux premiers tomes. 1932-1935, 54 ans se sont écoulés depuis la 7e édition, celle de 1878. Les temps ne sont pas faciles. La situation économique est grave, les exportations diminuent, les prix agricoles s'effondrent, la production industrielle s'affaiblit et le chômage augmente. En France, les gouvernements se succèdent et en Allemagne, le 30 janvier 1933, à la demande de Hindenburg, Hitler devient chancelier du Reich. En décembre 1933, éclate l'affaire Stavisky. C'est le début d'un grave scandale politico-financier. Les Français sont mécontents et l'émeute du 6 février 1934 fait à Paris 8 morts et 300 blessés. Un nouveau drame vient assombrir cette année 1934, l'assassinat le 9 octobre du roi de Yougoslavie en visite officielle en France. En janvier 1935, la Sarre est rattachée à l'Allemagne. En mai, Laval et Staline signent un pacte qui n'aura aucune portée. Mais l'URSS redoute de plus en plus le nazisme. Février 1936 voit le triomphe du Frente Popular en Espagne et en France, tandis que l'Italie achève la conquête de l'Éthiopie, le Front Populaire prend le pouvoir en mai. C'est dans ce contexte tourmenté que paraît la 8e édition du Dictionnaire de l'Académie. L'héritage du XIXe siècle est impressionnant, mais il est aussi étouffant, n'est-ce pas ?
Oui, vraiment. Impressionnant parce que derrière Larousse et Littré, il est très difficile de s'installer. On a, rappelons-le pour nos auditeurs, on avait avec Larousse un ouvrage qui faisait 20 695 pages sur 4 colonnes, 17 volumes. Les 15 premiers volumes publiés donc jusqu'en de 1865 à 1876. Bon, chaque article parfois représente presque un que sais-je quand on pense au chemin de fer par exemple. Et donc on est très impressionné quantitativement sur le plan encyclopédique. Et du côté de Littré, qui avait calculé que si l'ouvrage était composé sur une seule colonne, cette colonne aurait 37 525 mètres, 28 centimètres. Bon, il s'était trompé, il n'en reste pas moins que c'était 3 kilomètres de texte et que c'est quelque chose de très impressionnant aussi dans l'information, dans les citations et que, bien évidemment, on ne peut pas avoir de concurrent direct à cette époque-là. On peut avoir des gens qui reprennent le flambeau d'une autre manière. Il fallait, comme après chaque grand monument, attendre quelques transformations, quelques métamorphoses.
Oui, ils font partie de notre patrimoine culturel. Et on dit un Littré, un Larousse, et tout le monde comprend.
Oui, voilà. C'est même devenu presque synonyme d'excellent dictionnaire de langue quand on dit un Littré. On oublie en réalité qu'il est quand même du 19e siècle. Quant à Larousse, pendant un certain temps, la publicité était, on ne dit plus un dictionnaire, mais un Larousse. Et ce n'était pas totalement faux, juste après-guerre.
Oui. Alors, derrière Larousse et Littré, il est difficile de s'imposer. Et dans une perspective diachronique, Hatzfeld, Darmestetter et Thomas offrent une belle synthèse des travaux du siècle.
Alors, c'est une belle aventure. parce que c'est un ouvrage qui avait été mis, le Dictionnaire général de la langue française du commencement du XVIIe siècle
jusqu'à nos jours.
Voilà, donc un titre bien long, en général, on résume à Dictionnaire général d'Hatzfeld et d'Armestetter.
Il faudrait rajouter... Oui, on oublie Thomas.
Eh ben voilà, oui, je vois que vous connaissez parfaitement le sujet aussi. Enfin, aussi, en tout cas, que ça vous a passionné. Et le fait est que cet ouvrage, ce dictionnaire, avait été mis en chantier en 1871. Le premier volume a été publié en 1890 et le second, donc le dernier,
en 1900. Avec le siècle.
Alors, comment la rencontre s'était-elle produite? Eh bien, Adolf Hatzfeld était professeur de rhétorique, logicien au lycée Louis-le-Grand, et puis il avait conçu donc de longue date le projet d'un ouvrage qui soit donc caractérisé par ce classement rationnel, rigoureux des sens. Et le second a été rencontré, donc Antoine d'Armestetter a été rencontré sur l'impérial d'un autobus. Ce qui est quand même étonnant. Et le premier constate qu'il est en train d'observer un jeune homme qui lit attentivement, annote, met des étymologies et en plein, dans le fond, dans un sujet qui lui est proche, celui des mots.
Ils deviennent amis.
Il l'invite donc à participer à son dictionnaire. Et c'est comme ça que, eh bien, Antoine d'Armestetter, devenant l'ami d'Adolphe Hatzfeld, accepte de participer à cet ouvrage. Et du même coup, ça nous explique pourquoi le premier volume de ce Dictionnaire général de la langue française est pour le moins étonnant, parce qu'il y a, en début d'ouvrage, 300 pages qui sont offertes. Donc quand je dis en début d'ouvrage, ça fait plus d'un tiers de l'ouvrage d'ailleurs. Il y a 300 pages qui sont offertes en tête sous la forme d'un tableau de la formation de la langue. Et en réalité, c'est une histoire de la langue française. Alors, il y a un autre gaillard, si je puis dire, en termes de lexicographie, qui vient se mêler à cette très belle équipe. C'est Antoine Thomas, qui est professeur de philologie romane à la Sorbonne, et qui va y ajouter la dimension donc étymologique.
Alors, ce n'est pas un grand succès commercial, mais il a pourtant formé des générations d'étudiants.
Oui, alors, pourquoi ? Parce que d'abord, on commence par le sens étymologique. La définition commence par cet aspect-là. Il s'agit ensuite de retrouver l'enchaînement des idées, et je cite les auteurs là, que l'esprit a suivi du sens primitif au sens actuel. Ça, c'est la démarche. Ensuite, il y a, et c'est très nouveau, une présentation hiérarchisée des informations à l'aide d'une numérotation qui est clarifiante, avec un grand 1 suivi d'un petit 1, d'un petit 2, un grand 2 suivi d'un petit 1, d'un petit 2, pour bien dégager les grands ensembles sémantiques et les groupements de sens. Et donc c'est une typographie aussi qui est très agréable à consulter. Et effectivement, quelqu'un comme Josette Redebeuf, par exemple, dans Le Petit Robert, dira que c'est le dictionnaire qui a le plus influencé sa démarche. Elle n'est pas la seule. On peut dire que tous les étudiants très sérieux et solides de cette première moitié du XXe siècle seront impressionnés par cet ouvrage, qui est dans le fond une sorte de résumé du Littré, mais mieux structuré, mieux organisé, beaucoup plus facile à consulter et allant à l'essentiel et corrigeant évidemment dans les étymologies certaines erreurs. Donc c'est un ouvrage qui a eu un véritable succès d'estime, à défaut de succès commercial, et sans doute un trait d'union pour ces personnes qui vont faire la lexicographie du XXe siècle, et j'entends surtout du côté de la seconde moitié du XXe siècle.
Donc un ouvrage solide.
Vraiment.
La linguistique historique perd du terrain, et la perspective synchronique s'impose peu à peu avec Saussure. Et du coup, l'Académie, en continuant de décrire la langue en synchronie, se situe dans la mouvance historique du XXe siècle. Il est à la mode.
Oui, alors...
Il est dans le vent.
Vraiment. Quand en 1916 sont publiés donc les cours de linguistique générale de Saussure, Ferdinand de Saussure, on ne peut pas dire que ça soit un succès immédiat. Ça va mettre un certain temps avant d'être connu et on dira sans doute que c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que les linguistes français vont en tirer petit à petit, mais de manière solide, et vraiment les fruits. Mais le mouvement est lancé, c'est-à-dire une sorte de lassitude des études diachroniques, des études historiques, de toute cette philologie qui avait vraiment fait progresser la connaissance de la langue, et dans laquelle l'Académie, dans le fond, n'était jamais tombée. Si elle était tombée, au bon sens du terme, dans cette philologie à travers le dictionnaire historique de la langue française, mais qui n'avait pas abouti. Et du même coup, elle avait relancé avec la 7e édition et la 8e édition qui va arriver, elle avait relancé bien le dictionnaire de l'usage et l'usage en synchronie dans l'époque concernée. Et ce faisant, puisqu'il y a un rejet de la philologie, et que derrière Littré et Larousse, on s'intéresse de nouveau à la langue dans l'état où elle se trouve. C'est le grand débat de Saussure, le grand combat de Saussure. C'est la langue maintenant, en tant que système, sans passer par l'histoire tout de suite, qui peut venir après, mais d'abord, regarder le système tel qu'il fonctionne.
Hic et nunc.
Voilà. Et du même coup, eh bien, l'Académie se trouve, et là on ne l'a pas perçu tout de suite, mais l'Académie se trouve dans cette édition qui va être la 8e au cours de la première moitié du 20e siècle, elle se trouve tout à fait dans cette perspective, sans le savoir, sans que les contemporains s'en aperçoivent, c'est plus tard qu'on va le dire, dans une description en synchronie. C'est quelque chose qui fait de l'Académie française, depuis 1694, eh bien, une permanence rattrapée par l'histoire, si on peut
intéressant.
Dire. C'est ça qui est intéressant.
La lexicologie d'entreprise privée occupe tout le terrain éditorial. Larousse est sur tous les marchés.
Oui. Derrière, Pierre Larousse, qui, nous l'avons vu dans une autre émission, a non seulement le talent du lexicographe, de l'encyclopédiste, cette fibre républicaine de celui qui veut instruire tout le monde derrière l'instituteur qu'il était, eh bien, va bénéficier au cours de la première moitié du XXe siècle d'un énorme élan laroussien. Derrière Pierre Larousse, l'homme qui savait allier, il faut le dire, la description des choses, la description encyclopédique et de la langue, mais aussi l'entreprise, qui savait monter une maison, qui a monté la maison Larousse, eh bien, derrière lui, il va y avoir des successeurs, et tout le XXe siècle est auréolé par la maison Larousse, qui va se retrouver à peu près sur tous les terrains.
Alors de 1898 à 1904, le nouveau Larousse illustré en 7 volumes.
Voilà, alors ça c'est réellement la reprise du grand dictionnaire universel qui était en 17 volumes, mais en y enlevant ce qu'avait d'un peu anecdotique, d'un peu surajouté parfois, voire suranné, le côté communicant de Larousse qui aimait décrire, donner des anecdotes, etc. Là, on l'épure et on ajoute des illustrations, d'où vraiment le titre Nouveau Larousse illustré, de très belles illustrations, celles qui séduiront Sartre plus tard, et on en fait un dictionnaire qui se veut objectif. Aucun dictionnaire n'est objectif. Mais là, bon, on essaie de le rendre neutre et d'en faire un ouvrage de consultation avec de courts exemples, des développements précis, les noms propres étant mêlés aux mots de la langue. Alors,
pour toutes les bourses, sous toutes les formes.
Alors là, c'est pas encore pour toutes les bourses, même s'il est vendu par fascicule, mais pour toutes les bourses, là où vous avez vraiment raison, c'est 1905. Le Petit Larousse illustré en juillet 1905.
500 000 exemplaires par an.
Oui, c'est ça. C'est un ouvrage qui va d'abord connaître 200 000 exemplaires. C'est un énorme succès. Puis très vite, 400 000, 500 000. Et on sait qu'en 2000-2001, au moment du millénium, comme on disait, l'effet millénium, eh bien, on se retrouvait avec plus d'un million d'exemplaires même qui ont été vendus. Alors ce Petit Larousse, c'est un phénomène éditorial qui nous est envié de la planète entière, il faut bien le dire. Les États-Unis l'ont souhaité, ils n'ont pas réussi. On sait que Lénine avait ce projet, il le dit en toutes lettres, de faire un Petit Larousse soviétique, mais bon, ils n'ont pas su le faire. Parce que ça reposait dans le fond sur une expérience. Quand on dit le Petit Larousse de 1905, il faudrait dire qu'il est né en 1856 du nouveau dictionnaire de la langue française de Pierre Larousse, qui en était déjà avec des pages réservées aux locutions, qui en était latine, qui en était déjà le prototype.
1907 ?
Alors 1907, c'est le Larousse mensuel illustré. On n'en parle pas assez. On ne le connaît pas assez parce qu'il a duré jusqu'en 1957.
57. Et donc, 600 mois.
Voilà, c'est énorme. Et c'est une description extraordinaire qui, à chaque fois, chaque mois, part de A à Z. Et notamment pour l'Académie française, puisque la lettre A commence presque par l'Académie, il y a à chaque fois le discours du dernier récipiendaire, il y a les informations. C'est une mine d'informations qui n'a pas été utilisée ni par les historiens, ni par les linguistes. Moi, j'en avais parlé un petit peu dans ce volume sur l'histoire de la langue française, la suite de Ferdinand Bruno, et on m'avait demandé pour le XXe siècle de traiter de la lexicologie, et je m'en étais servi pour montrer à chaque fois quand étaient signalés dans ce Larousse mensuel illustré de nouveaux ouvrages de linguistique et de sémantique, notamment et de lexicologie. Parce qu'ils sont notés les livres qui paraissent avec un petit commentaire, ils sont notés à partir d'un certain moment les films, les pièces de théâtre, les romans, et donc c'est vraiment quelque chose de remarquable.
Précieux.
Précieux.
1910,
Larousse
classique illustré.
Voilà, c'est comme son nom l'indique, mal compris parfois, classique signifie en réalité, est connoté par l'idée de classe. C'est ce qu'on apprend en classe, l'enseignement classique. Et cet ouvrage a pour public les élèves des collèges et des lycées. Et il ne va disparaître en vérité, qu'en 1987, donc lui aussi a une longue vie.
1911, le Larousse de poche.
Oui, alors celui-là m'est cher parce que j'ai celui de mon grand-père, sur papier Bible, parce que justement, il fallait qu'il soit sur un papier très fin pour être de poche. C'était sous la direction de Claude Auger, qui était l'auteur, d'ailleurs, enfin le directeur du Petit Larousse, l'essentiel de l'information sur la langue. Il passe sans difficulté, d'ailleurs, le cap du XXIe siècle. On achète toujours un Larousse de poche. Donc, alors, il n'y a pas d'illustration, mais c'est un ouvrage précieux.
1914, le Larousse élémentaire illustré.
Oui, et le mot élémentaire, Anne-Françoise m'a longtemps entraîné dans une erreur. Au départ, c'est vraiment élémentaire au sens de donnant les éléments, mais pas pour l'école élémentaire. C'était le Larousse de base, en quelque sorte, des éléments de base. Il était dirigé d'ailleurs conjointement par Claude Auger et son fils, Paul Auger, et il donnait les éléments essentiels. Et c'est quand l'école élémentaire a pris du poids et eu un certain succès que, petit à petit, il est devenu effectivement le Larousse privilégié de l'école élémentaire. Et il va disparaître en 1987. 14, on est juste avant la Première Guerre mondiale.
Absolument. 1922, le Larousse agricole.
Voilà, alors je suis content que vous citiez ce Larousse agricole parce que pour moi, c'est le début de toute cette série d'ouvrages Larousse spécialisés qui, sans être un dictionnaire au sens très fort du terme, est quand même un dictionnaire parce qu'il recueille des informations dans l'ordre alphabétique, des informations encyclopédiques. Et celui-ci a évidemment, j'en possède 4 ou 5 exemplaires chez moi parce qu'il a eu des rééditions, et donc à chaque fois en 2 volumes. Et il a été conçu par Chancry et Dumont. Il a fait date. À lui seul, il est symbolique de toute une série d'autres dictionnaires spécialisés. Le Larousse ménager illustré en 1926, le Larousse gastronomique en 1938, le Larousse des fromages en 1972, puis le dernier qui me tient à cœur aussi, même si quand j'essaye de faire le régime, c'est véritablement une souffrance que de le voir, c'est le Larousse du chocolat en 2005. Donc c'est un genre qui va connaître un succès jamais démenti.
Inépuisable.
Inépuisable aussi.
Alors de 28 à 33... Le Larousse du XXe siècle.
Oui, en réalité, de manière récurrente, tous les 30 ans à peu près, 25, 30, on va offrir dans les grandes maisons d'édition, et Larousse est la grande maison d'édition, la seule presque, du XXe siècle, du début du XXe siècle, la première moitié, eh bien on offrira, comme il y a eu le grand dictionnaire universel du XIXe siècle à la fin du XIXe, comme il y a eu le nouveau Larousse illustré en gros fin XIXe, début XXe, eh bien là, au bout de 30 ans, il y a eu quand même une guerre entre les deux qui a fait couler beaucoup d'encre et hélas de sang. Et par conséquent, il est temps de remettre à jour l'ouvrage et on publie. Donc de 1928 à 1933, ce Larousse du XXe siècle en 6 volumes, qui est d'ailleurs très intéressant. Il y a un supplément en 1953 qui sera intégré après, d'ailleurs, dans l'ouvrage. Il est dirigé par le fils de Claude Auger, Paul Auger, dirigé seul par lui. Et dans le domaine culturel, il est très intéressant parce qu'il y a des biographies d'hommes politiques importants du moment, mais qui, bon, ne seront pas retenus par l'histoire et qu'on ne trouve que là. Et je me souviens de m'en être entretenu avec Jean Dubois, qui avait dit « mais c'est un ouvrage méconnu, lui aussi, parce que, évidemment, il a été dépassé par ceux qui ont suivi. Il a moins de charme que les précédents parce qu'il est trop proche encore de nous en illustration. Il y a déjà des photos et on préfère effectivement ces illustrations, ces gravures, parce que pour nous, ça remonte à un temps plus ancien. Mais il est de contenu très riche, très intéressant, fort bien fait.
Alors, le dernier avant la guerre, la seconde guerre, 1936, le petit dictionnaire français.
Oui, vous faites très bien de citer celui-ci, il est tout petit. Hein, j'en ai bien une trentaine chez moi, puisque vous savez, dans la folie, je les prends tous, et comme il y a à chaque fois une date différente, parce qu'il est né en 36, mais il sera réédité en 37, en 38, en 40, etc. Et en 40, non. Mais ce petit dictionnaire français, format une 18, donc tout petit, qui était encore plus petit que le Larousse de poche, à mon sens, il correspond magnifiquement à cette perception qu'a Larousse de l'histoire de la France. Il arrive en 1936, mais il a été conçu avant. Or, exactement comme il y a eu en 68 une refonte, en 81 une refonte, quel que soit le point de vue politique qu'on ait sur le sujet, on a toujours la sensation que Larousse est là au moment des transformations importantes de l'histoire et que arrive un dictionnaire qui correspond soit en refonte. Et donc ça, c'est émouvant. Donc je trouve ce dictionnaire de dépannage avec des définitions qui sont minimales, mais il est intéressant. 1936, c'est tout un symbole.
Alors 1949,
oui,
Larousse des débutants de Michel de Taureau.
Dois-je le dire sur l'antenne? Enfin sur l'antenne, c'est ma date de naissance.
Ah.
Donc il est pour moi précieux aussi, mais en même temps cruel, parce que chaque année qui passe eh bien me fait vieillir un peu. Mais 1949, c'est un grand cru, pas pour la naissance, mais parce que c'est le Larousse des débutants de Michel de Taureau, ou Miguel de Taureau, parce que c'est aussi l'auteur du Pequeño Larousse Ilustrado, en Espagne donc, qui a été paru en 1912 déjà. Et ce Michel de Taureau, va être celui qui dirige le petit Larousse après-guerre, pendant un temps. Et donc il est bilingue, et ça correspond bien à ce que je ressens, au-delà de mon admiration pour Bernard Quémada, qui lui aussi était bilingue et nous a donné le grand trésor de la langue française, au fait que, quand on fait un dictionnaire monolingue, souvent, on est bilingue culturellement. C'est très vrai de l'Académie française avec le latin, le grec, et on en avait parlé, Prévost,
Paradol,
etc.
Oui, aimer une autre langue, c'est d'abord aimer la sienne.
Voilà. Et en conséquence, ce Larousse des débutants, c'est vraiment, à mes yeux, le premier Larousse pour enfants. Parce qu'il est fait non pas comme une réduction des dictionnaires d'adultes, ce qui était le cas, mais il est conçu pour les enfants, avec de bons exemples, avec des définitions à leur portée, avec aussi des illustrations remarquables. On y ajoute, dès 1958, sentant bien son succès auprès des écoles, ce qu'on a appelé alors le vocabulaire fondamental de Guggenheim, ce qui est toute une autre histoire, parce que ce vocabulaire fondamental de Guggenheim, conçu comme étant le vocabulaire minimal pour, dans le fond, un pays, et on pensait aussi à tous les pays d'Afrique où il devait y avoir un vocabulaire fondamental, a souvent été mal compris comme une sorte de minimalisme, je ne sais pas si le mot existe, mais de minimum d'apprentissage du vocabulaire. Là, c'était une erreur. Heureusement que l'Académie était là et que les dictionnaires étaient là avec leur nomenclature qui dépassait de loin ce vocabulaire fondamental de 3000 mots.
Alors ce dictionnaire représente le premier dictionnaire d'apprentissage.
Vraiment. C'est mon mot aujourd'hui, vraiment, parce qu'on est au cœur d'une vérité lexicographique.
En face de Larousse, il n'y a qu'un seul concurrent, du même esprit et pas vraiment dangereux.
Non, on pourrait citer, j'en ai des ouvrages dans ma bibliothèque.
Alors là, nous parlons de qui est, hein.
Voilà, alors on pourrait citer Colin et quelques autres, mais
oui.
Il n'existe pas.
Nous l'avions chez moi.
Voilà, il y a un volume, j'entends pendant cette première moitié du 20e siècle, en tant que concurrent lexicographique, c'est Larousse qui est là. Mais il y a un concurrent de même nature. J'entends que Pierre Larousse, il s'agit d'un homme, c'est Aristide Quillet, qui a fait paraître en 1934 six volumes de ce dictionnaire encyclopédique qui est, que beaucoup d'entre nous ont eu, ont consulté avec, vous savez, ces encoches qui permettaient de mieux le consulter à la mode américaine. En 1946, il y avait les trois volumes du dictionnaire qui est de la langue française, qui ne manque pas d'intérêt parce qu'il y avait des très belles illustrations, de très bonnes illustrations, ce qui pour un dictionnaire de la langue était assez rare, c'était vraiment un dictionnaire de la langue, il y avait aussi des aspects analogiques. Bon, j'ai beaucoup de sympathie pour cet ouvrage, mais on ne pouvait pas concurrencer Larousse financièrement. Et il faut le dire, Aristide Quillet, je dis deux mots de ses origines, il était du côté du Val d'Oise maintenant, et près de l'Isle-Adam, son père travaillait dans une carrière, et l'enfant qu'il était destiné, l'adolescent, à travailler aussi dans une carrière, dans la poussière. Il ne supportait pas la poussière d'une carrière de pierre, et c'est comme ça que, muni d'un bagage très sommaire mais solide à l'époque, certificat d'études, eh bien, il va devenir secrétaire, puis va se lancer dans cette entreprise.
Donc une allergie extraordinaire. Bénéfique.
Une allergie bénéfique, effectivement.
Dans le même temps, on assiste à une vague de réformes orthographiques qui n'aboutissent pas. Il y a de nombreuses contestations.
Oui, alors elles viennent des instituteurs notamment, qui tout en étant, disons, les formateurs extraordinaires qu'ils sont du côté de l'orthographe pour nos élèves, surtout en cette Troisième République et Quatrième ensuite, on se rend compte qu'il y a ça et là dans la langue des choses qui pourraient être corrigées. On oublie toujours de dire que l'Académie savait les corriger. C'est-à-dire que entre l'orthographe, qui surprend toujours mes étudiants, de la première édition du dictionnaire de l'Académie et celle de la 7e ou 8e que nous allons
nous
aborder...
Nous l'avons vu au cours de toutes ces éditions.
Voilà, il y a vraiment énormément de transformations, de métamorphoses qui ont été opérées par l'Académie avec son aval et en même temps tout son poids. Mais il y a aussi, comme toujours, on ne va pas les reprendre parce que c'est toujours les mêmes. C'est l'accent circonflexe, c'est le redoublement de consonnes, les hésitations avec résonance, etc. Et qui sont toujours l'objet de critiques. Et puis il y a des bouts de feu aussi qui veulent carrément une orthographe phonétique.
Et aller trop vite.
Et aller trop vite. Alors tout ça fait qu'à la fin du 19e siècle et début du 20e, on est dans toute une série de tourmentes. La presse s'en empare en permanence. Et donc, il y a un certain nombre de propositions. Alors, par exemple, dès 1890, les pressions sont déjà très vives.
Triple pétition.
Voilà, pour réformer l'orthographe. Et à la séance, vous avez raison de signaler, du 25 mars, une triple pétition est adressée à l'Académie. Du coup, le 26 janvier 1896... 13. C'est une note rédigée par Octave Gréard, qui est membre de la commission du dictionnaire, et qui est portée donc cette note à l'attention des membres de l'Académie. Il y a 10 propositions pour simplifier l'orthographe en vue de modifications, donc à introduire dans la nouvelle édition du dictionnaire de l'usage. Elles sont discutées, ces propositions. L'Académie décide à la séance du 20 juillet 1893 d'imprimer la note, de la publié. Et puis, l'Académie est très prudente en matière d'orthographe, je pense qu'elle a raison, mais lors de la séance du 26 octobre, même si elle en a autorisé l'impression, elle ne considère tout de même pas comme définitive les modifications proposées dans cette note. Et sa distribution se limitera dans le fond aux membres de l'Académie. Alors, il faut attendre la séance du 4 janvier 1900. Et là, c'est donc Ferdinand Brunetière qui informe l'Académie que le Conseil supérieur de l'instruction publique a
qui
été...
Qui n'est pas toujours dans les meilleurs thèmes avec l'Académie.
Non, vous avez fort
il essaye
fait.
De la doubler. L'Académie n'est plus seule en place.
C'est cela. Il y a là une concurrence...
Elle n'est plus seule maîtresse du jeu.
Voilà, entre l'Académie d'un côté, qui a toujours dit qu'elle ne veut qu'enregistrer l'usage, mais qui en même temps se sentait bien arbitre. Et puis de l'autre côté, le ministère, le gouvernement, le ministère de l'instruction publique, surtout, et qui souhaite des réformes, ou en tout cas qui est pressé par différents contestataires qui demandent des réformes. Et quand je dis tout à l'heure que l'Académie avait raison d'être prudente, je ne sais pas si ce propos sera apprécié de tous. Ce que je voulais dire par là, c'est que même s'il y a des incohérences dans la langue française et dans son orthographe, et que l'Académie serait souvent prête à les corriger, l'usage est terriblement défendu, même dans ses incohérences, par le monde des journalistes, par le monde des écrivains, et par cela même. C'est ça qui est surprenant.
Oui, l'Académie dit que chaque mot a un visage, et qu'il est bon de respecter ce visage.
Oui, et puis surtout, chaque fois qu'il y a une amorce de changement, il y a une levée de bouclier.
Il y a un lobby.
Tel, voilà,
qui lève les boucliers.
Que ça devient difficile de proposer une rectification. Chacun, à ce moment-là, évoque l'histoire. Bon, moi, je ne veux pas être jugé parti dans l'affaire. Eh bien, faisons confiance à l'Académie.
Alors, en 1904, la simplification de l'orthographe revient à l'ordre du jour. En 1905, l'Académie adopte le rapport Faguet.
C'est ça.
Et 22, Alfred Rebellio, qui est l'un des principaux artisans de la 8e édition, adresse une note au secrétaire perpétuel Frédéric Masson.
C'est ça. Alors, cette note est précise. Voilà ce qu'il dit. Les principes orthographiques, grammaticaux ou phonétiques que l'Académie a établis entre 1880 et 1906, après de longues discussions en commission spéciale ou en séance générale, et contradictoirement avec certaines tendances ou systèmes des grammaires contemporaines, ou avec certaines décisions de l'administration de l'enseignement public, ces principes n'ont pas été appliqués, le plus souvent par l'Académie elle-même, dans les cas particuliers, et elle a sursis à l'application jusqu'à l'impression de la 8e édition. Donc voilà, c'est une bonne conclusion.
C'est une bonne conclusion.
Pour évoquer ces tourmentes.
Alors, s'opère par ailleurs un renouvellement très important du lexique, en fonction des progrès techniques et scientifiques. Le renouvellement est enregistré par les dictionnaires privés, mais l'Académie se trouve en décalage par rapport à ce renouvellement.
Oui, c'est bien ce qu'elle souligne d'ailleurs dans la préface de cette 8e édition dont on va parler. Elle dit nommément « Elle se trouva en présence d'une brusque pénétration des vocabulaires des sciences et des arts dans le parler de tous qui, depuis, ne devaient plus cesser de s'enfler démesurément d'année en année. » Et là, on évoque l'édition finalement précédente, qui déjà est dans cette mouvance. C'est le siècle du progrès, le 19e siècle, dit-on, progrès technique, progrès scientifique, et ça n'a cessé de s'accélérer.
Bien
mais
sûr.
Ce qui s'accélère
ça s'accuse
en même
avec
temps,
la 9e.
Voilà, ça s'accuse évidemment encore davantage avec la 9e. Et donc, on est là dans une sorte de difficulté dont va très bien se tirer l'Académie française, mais de difficultés qui consistent à avoir toujours choisi l'usage général, à toujours avoir dit on ne s'occupe pas des jargons, mais cependant d'être confronté à des jargons quand ceux-ci dépassent le statut de jargon uniquement
spécialisé.
Voilà, utilisé entre spécialistes pour entrer dans le langage courant. Évidemment, il y a des mots techniques qui sont devenus imparables. On le voit bien aujourd'hui.
Importable.
Informatique, portable, etc.
Bien sûr. Alors, venons-en à cette 8e édition. Quels en sont les principaux artisans?
Alors, les principaux artisans...
Nous avons déjà nommé Rebellio.
Voilà.
Alfred Rebellio.
Les principaux artisans, on vient d'en nommer effectivement quelques-uns. On a nommé aussi Gréard. Mais il y aurait aussi René Doumic, dont on va reparler.
Surtout René Doumic.
Surtout René Doumic, qui va être donc élu secrétaire perpétuel le 6 mars 1923. Et avec donc un intérêt très fort pour justement cette nouvelle édition qui va se faire jour.
Qu'il va accompagner du début à la fin.
Voilà, et qui va donc avoir son premier volume en 1932 et son second en 1935. Alors, on avait évoqué Alfred Rebellio. Il faut dire qu'il était entré en scène déjà en mars 1905 pour aider au travail de l'Académie. Il était sous-bibliothécaire de l'Institut de France en 1893.
L'Académie en était à la lettre C à l'époque.
Voilà, bibliothécaire en 1998. Et au moment où on en est à la lettre C, il entre pour participer aux travaux de la commission des dictionnaires. Et cela à titre d'auxiliaire et de secrétaire dès 1896. Alors, c'est dans le fond, lorsque René Doumic est élu secrétaire perpétuel, que quelques jours après, donc fin mars 1923, il mandate officiellement Alfred Rebellio pour diriger le travail de révision et de préparation du dictionnaire, avec un traitement de 10 000 francs supplémentaires d'ailleurs, à l'allocation de 4 000, on a les chiffres précisément grâce aux correspondances, affectées par voie ministérielle au secrétaire de la commission du dictionnaire. Et en 1923,
l'Académie en a la lettre I.
Voilà, c'est donc un très bon signe. Ça veut dire, la lettre I, là, je vous vois sourire, c'est effectivement qu'on est comme le I à la moitié, donc on peut commencer à sourire, on se dit on a fait la moitié, à peu près.
Alors ce Doumic, faites-nous son portrait, Jean.
Alors, René Doumic, à qui
il
on
est
doit...
le préfacier.
Voilà, on
préfacier
lui doit
de la 8e édition.
Effectivement, la préface. Ce qu'on nous dit d'ailleurs dans la séance du 28 novembre 1935, voilà ce qui est dit. Le directeur présente le dernier fascicule du dictionnaire. La compagnie doit avoir une pensée de reconnaissance pour les aînés qui, pendant 50 ans, ont préparé cette nouvelle édition et remercie particulièrement son secrétaire perpétuel qui a consacré à cette révision et à la rédaction de la préface tant de zèle et de compétence. C'est peut-être même d'ailleurs dommage qu'on ait oublié un petit peu René Doumic. Quand on dit René Doumic, on ne pense pas forcément à l'Académie française. Qui était-il ? Et on a tort. Il est né à Paris en 1860. Il a fait ses études au lycée Condorcet, puis à l'école normale. Il est reçu donc premier à l'agrégation des lettres, nommé professeur au lycée de Moulins. Il va y rester un an, puis il revient à Paris, occupe un poste de professeur au collège Stanislas, un poste qu'il va donc conserver pendant une quinzaine d'années, avant d'accepter la direction de la revue Lecture pour tous chez Hachette. Hachette, ça sera l'éditeur. Donc je pense que c'est un rapport sans doute avec le choix de l'éditeur de cette édition du dictionnaire de l'Académie. Il est élu à l'Académie française en 1909, donc à 49 ans, ce qui est très jeune.
Et il en devient secrétaire perpétuel en 23.
Voilà.
1923.
C'est ça. Et il va occuper activement ce poste en s'intéressant de très près au dictionnaire. En 1916, il avait succédé à Francis Charme à la direction de la revue des Deux Mondes. Et il conservera d'ailleurs ce poste important jusqu'à son décès en 1937. C'est donc vraiment le témoin de son temps, hein, on peut dire ça. Et René Doumic l'avait bien noté en constatant qu'il n'était plus aussi facile de faire le départ, la différence, entre les mots que l'on accueillera dans le dictionnaire et ceux auxquels on refusera l'entrée. C'était facile au XVIIe, encore assez facile au XVIIIe, et puis on avait ouvert quand même. Au XIXe, pour la 7e édition dont on a parlé longtemps, ça devenait difficile, avec même des erreurs parfois d'interprétation, et c'est encore plus difficile pour la 8e, bien entendu.
Alors c'est à Hachette que l'Académie confie l'édition de cette 8e édition. Voulez-vous, Jean, nous dire comment cela s'est passé ?
Alors, comme je viens de le souligner, je pense que le fait que Doumic ait travaillé chez Hachette, a eu un rôle, bien sûr. Il
explique
avait des contacts privilégiés.
Il a choisi Hachette.
Et sans doute, sur le plan financier, c'était intéressant pour
la 8e édition.
Bon, et puis aussi, la volonté, ça c'est important, la volonté de bénéficier d'un grand diffuseur. Hachette est un grand diffuseur et l'Académie a peut-être envie aussi d'être plus largement connue et diffusée. Et puis alors, jusqu'ici, c'était Firmin Didot qui souvent avait été donc contacté, mais il n'y a pas d'entente. L'entente ne se fait pas avec Firmin Didot et c'est au cours de la séance du jeudi 5 février 1925 que le secrétaire est autorisé donc à signer au nom de l'Académie un projet de traité de publication.
Alors, par fascicule,
la librairie Hachette. Il sera publié par fascicule et chacun des deux volumes devant donc en comprendre 4. Dans les faits,
finalement, il n'y en aura que 7.
Il n'y en aura que 7.
4 et 3.
Voilà. Et on aura deux volumes, et je dois dire que non, puisque je les ai tous dans ma bibliothèque, ce sont ceux qui, tout en ayant le format toujours in quarto, sont du plus grand format in quarto. C'est une belle édition. C'est une édition solide et qui n'a sans doute pas connu le succès qu'elle devait avoir parce que est arrivée la Seconde Guerre mondiale et on le sait bien, quand les guerres arrivent, le cœur n'est plus toujours à l'achat des dictionnaires.
Bien sûr. Alors finalement, cette 8e édition, un contenu honnête mais sans éclat, n'est-ce pas ?
Alors, c'est un contenu très honnête, sans éclat particulier. Je pense que la période ne s'y prêtait pas. Il n'y a pas de nouveauté dans la présentation des choses. Il y a pas
l'époque était bien difficile, comme
voilà,
je l'ai dit tout à l'heure.
L'époque était difficile. Bon, il y a une prise de conscience qui est intéressante. Quand, lisant cette préface, vous trouvez quel adolescent de nos jours ne connaît pas, par leur nom, les différentes pièces d'une automobile ? De quel artisan, de quel paysan de France reste ignoré des termes tels que microbe, sanatorium, otite, diphtérie, hydravion, commutateur, carburateur, court-circuit. Et on voit bien que l'Académie, là, a une nouvelle réflexion, parce que ce sont des mots techniques, court-circuit, carburateur, alors qu'ils ne sont pas forcément connus parfaitement. Je suppose que mes filles ne savent pas vraiment ce qu'est un carburateur, mais il n'en reste pas moins que le mot est bien connu, et qu'on sait en gros de quoi il s'agit. Et là, on est dans cette difficulté. Alors, jargon, pas jargon, mot technique ou pas mot technique, et la neuvième va vraiment trancher, en comprenant bien.
Il devient difficile d'identifier le
voilà.
bon usage.
Et c'est ce qui fait que cette édition, bon, on n'a pas, disons, la marge encore suffisante. Il y a d'autres choses, d'ailleurs, qui sont intéressantes dans cette édition, c'est qu'on va supprimer la marque grammaticale S point qui voulait dire substantif et on va mettre enfin nom N point qui est plus clair. Donc il y a quelques modifications quand même qui méritent d'être citées. Et elle a supprimé aussi des mots. A-t-elle eu raison ? Parce que là aussi c'est difficile de dire. Elle a supprimé des mots comme argonaute. Bon, mais ensuite, on a eu un grand romancier qui nous a écrit des choses très belles sur le sujet. Capitole, Hélicon, Boré, Étrusque, Basque, voilà des mots qui ont été supprimés. Bon, elle a quand même réfléchi aux différents problèmes. Elle les a peut-être pas parfaitement résolus, mais c'est une édition qui est très honnête, hein, qui reste à consulter encore.
L'Académie, loin d'ignorer les effets de la transformation de la société sur la langue, a cherché à les concilier avec sa mission de faire un dictionnaire du bon usage. Mais il devient de plus en plus difficile de reconnaître la langue des gens qui parlent bien, entre guillemets. Les trois artisans de l'édition de 1932-1935, René Doumic, Alfred Rebellio et Léopold Sudre, auront tout de même réussi à mettre cette huitième édition à l'heure du XXe siècle. Mais avec la Seconde Guerre mondiale, les dictionnaires sont dans la tourmente, la France est occupée et les Français ne sont guère concernés par les problèmes de langage. L'édition est en sommeil.
Oui. Et alors, elle est en sommeil à double titre. Elle est en sommeil parce que devant de grands événements terribles comme la guerre, l'occupation, les déportations, etc., bon, le cœur n'est pas à traiter de la langue avec toute la sérénité qui convient. Mais il y a aussi un problème politique, c'est-à-dire notamment pour les dictionnaires encyclopédiques qui racontent la vie des personnes, comment traiter les noms propres, comment faire un article sur Hitler. Et Larousse va être assez habile pour refuser, par exemple, habile, c'est pas le mot qui convient, honnête, je dirais, mais courageux en même temps, pour refuser de publier le Larousse mensuel illustré dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que publier un Larousse mensuel illustré, c'était publier quand même un ouvrage sous forme neutre, lexicographique, mais rien n'est jamais neutre quand c'est quand même l'actualité. Et elle ne le fera pas. Alors, il existe quand même ceux qui l'ont dans leur bibliothèque, mais regardez bien ce qui est indiqué, il a été refait a posteriori. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas écrit pendant la Seconde Guerre mondiale et ils ont refait les volumes y correspondant. Donc c'est quelque chose d'étonnant.
Et vous les avez ?
Oui, je les ai, oui. Et notamment pour la Seconde Guerre mondiale, c'est le général Végan qui s'occupera de faire cet ouvrage. Donc c'est quelque chose de prenant. Et puis alors, une autre raison, c'est qu'il y a raréfaction du papier. Un dictionnaire, comme le journal d'ailleurs, est gros consommateur de papier. Et pendant la guerre et tout juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a des problèmes de papier. Hein, et donc, on a, du côté des dictionnaires, pas de possibilité de faire de grands projets avec des grands volumes. Mais les esprits, comme après chaque guerre, se reconstruisent. Et très vite, évidemment, il y a de nouveaux élans.
Plusieurs académiciens, dont Paul Morand, vont être mis en cause et l'Académie s'en trouver ébranlée.
Paul Morand est un cas particulier. Bon, c'est un grand et bel écrivain qui, après la Libération, parce que justement, il a accepté sous Vichy une ambassade en Roumanie, puis en Suisse, eh bien, va être mis de côté, considéré comme ayant collaboré, ce qui est un très grand mot, ce qui n'est pas vraiment la réalité. Mais enfin, évidemment, on lui reproche. Il est redécouvert par les hussards, hein, ce groupe désinvolte, comme dit Larousse, enfin les dictionnaires Larousse, dont Roger Nimier est l'initiateur. Et on va le pousser à se présenter à l'Académie française. Et il va être présenté à l'Académie française en 1958. C'est vrai qu'il s'y était présenté en 1936, sans succès. En 1958, mais là, eh bien, on lui reproche, et quand je dis on lui reproche, le général de Gaulle lui reproche justement ce passé politique. Et depuis Louis XIV, le chef du gouvernement français a son mot à dire sur les académiciens, peut refuser quelque chose. Et donc en 1958, il ne peut être élu à l'Académie française. Il sera néanmoins accepté après une période, si on peut dire, de grand purgatoire en 1968, où là, il est élu à l'Académie française sur le fauteuil de Maurice Garçon, ce qui est justice compte tenu de son œuvre littéraire, bon, qui était très intéressante.
Alors, la 9e édition est néanmoins en gestation.
La 9e édition est en gestation. Elle vit, en définitive, on peut dire que dès qu'un dictionnaire est publié à l'Académie,
l'autre est
déjà en route.
L'autre est en route.
À la limite, les germes sont déjà là.
Oui.
Et sitôt.
Et la substance.
Voilà. Sitôt, donc, la 8e édition et le 2e volume publié en 1936, eh bien, on pense, peut-être pas tout de suite d'ailleurs, à.
35.
Alors. Oui, 35, vous avez raison. Je vois que vous êtes vigilante, et il le faut. Les académiciens ont un autre projet en tête, qui est bien dans l'air du temps, d'ailleurs. Et peut-être vous voyez où je veux en venir. C'est pas tout de suite la réédition complète des deux volumes, mais peut-être un projet.
Le petit dictionnaire de l'Académie française.
C'est cela.
Alors, abrégé, pas abrégé.
Oui, c'est
petit,
ça.
Petit, comment
on voit bien qu'il y a eu le grand Larousse, le petit Larousse. Et donc, on sent bien que toutes les maisons d'édition ont. Et puis, quand je dis il y a eu le grand Larousse, le petit Larousse, il y a eu le Becherel. Ça ne s'appelait pas le petit Becherel, mais c'était pareil. Hein, tous les dictionnaires, il y a eu le Guérin, dans sept volumes, il y a eu le petit Guérin aussi. Donc, toutes les maisons d'édition ont bien compris que le petit entraîne le grand et le grand entraîne le petit. Il y a eu le Littré aussi. Et derrière le Littré, il y a ce qu'on appelle souvent le Littré Beaujean, qui était l'abrégé du dictionnaire de la langue française d'Émile Littré par Beaujean. Hein, et donc, on sent bien là que c'est un mouvement éditorial. L'Académie, comme elle vient de se situer aussi dans le domaine de la grande diffusion avec Hachette, ce n'est pas étonnant qu'elle ait l'envie aussi d'avoir un petit. D'ailleurs, là, je n'en sais rien, je n'ai aucun dossier sur le sujet. Mes collègues qui ont travaillé n'en ont pas parlé. Mais il n'est pas impossible que ce soit une idée qui vienne de Hachette aussi, hein, qui ait envie aussi de diffuser un petit dictionnaire de l'Académie française. Donc là, est lancée l'idée, d'ailleurs, soutenue par René Doumic, qu'il y aura à côté du dictionnaire de l'Académie, donc là, la 8e édition, eh bien, un petit.
Alors, ils vont jusqu'à Abouchement.
Effectivement, ils commencent. Le travail se fait. Et à Abouchement, justement, l'abouchement se fait pas bien.
Pas.
Voilà, c'est ce que. Parce que, évidemment, quand on fait un petit dictionnaire, on devrait se contenter de réduire, ou en tout cas de voir à la baisse les informations qu'on donne dans le grand. Mais très vite, le petit, qui vient après le grand, a envie de corriger le grand. Parce qu'on sent bien que là, ça peut être amélioré. Là, et alors, du même coup, du petit à la révision du grand, il n'y a pas loin. Et des remarques se font. Et à ce moment-là, on se retrouve dans une nouvelle perspective. Et c'est Abel Herman qui dit « Les erreurs qu'on pourra rencontrer en faisant le petit dictionnaire devront être corrigées et ce travail pourra servir pour la 9e édition du grand dictionnaire et même pour un nouveau tirage de la 8e s'il y a lieu. » Et là, on est contre toute attente et toute habitude. Hein, il n'y a pas des rééditions du dictionnaire de l'Académie, des corrections. Il y a une nouvelle édition. Alors, faire le petit, dans le fond, c'était commencer le grand.
Oui, et les académiciens ne sont pas faits pour les petites tailles, finalement. Quoi.
Moi, je crois que ça, c'est une très bonne formule, effectivement.
Alors, dès août 36, eh bien, le dictionnaire de l'usage est mis en chantier et le travail de révision commence.
Oui, avec même une certaine impatience.
Oui, ils s'ennuyaient. Ils s'ennuyaient,
mais en même temps, on continue quand même. C'est un peu comme le dictionnaire historique de la langue française du 19e. Voilà. On poursuit parce que...
Parallèlement.
René Doumic n'a pas envie d'abandonner l'idée du petit dictionnaire. C'est son idée, après tout, et il y tient. Mais en vérité, avec le décès, la disparition de Doumic, le projet lui-même tombe à l'eau. Et c'est vraiment la grande édition, la 9e édition, qui commence.
Avant de parler de la 9e édition du dictionnaire de l'Académie, vous allez, Jean Prévost, si vous le voulez bien, nous raconter l'épopée du TLF, le trésor de la langue française. Il s'agit d'un second dictionnaire institutionnel.
Oui, alors là, c'est très important parce que, d'autant plus que l'amitié et les échanges entre l'Académie française en ce 21e siècle, le trésor de la langue française, et encore peut-être davantage au moment où Bernard Quémada dirigeait le trésor de la langue française, très ami avec les académiciens et sachant produire ces ouvrages dont on tire l'information en partie, hein, les préfaces du dictionnaire de l'Académie française dirigé par Bernard Quémada, eh bien, il s'est passé des choses dans les années 1970. Et on revient en arrière parce que tout à l'heure on évoquait 1916, Saussure. Il faut donc attendre le lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour que le structuralisme que lance en quelque sorte en linguistique Saussure, repris par Lévi-Strauss, eh bien, touche d'abord les savants et ensuite le grand public. Et c'est dans les années 70, 1970, que le grand public va être touché. Et grâce à des gens comme Grémas, comme Bernard Quémada, comme Mitterrand, qui se retrouvant d'ailleurs parfois dans le même train pour aller travailler à l'université de Besançon, eh bien, échanger le tout avec Wagner, qui était un très grand linguiste et un très grand professeur à la Sorbonne, eh bien, va faire naître un certain nombre de projets. Et puis il y a Paul Imps. Paul Imps, qui est un grand romaniste, qui est sensible aussi à ce nouveau mouvement, qui est sensible à ce jeune maître de conférence qu'est Bernard Quémada et qui, à Besançon, lance un certain nombre d'expériences, des expériences avec des nouvelles machines. Et là, eh bien, il y a une aventure qui s'installe, qui vraiment a le mérite d'être racontée. Alors, il faut quand même dire que ce trésor de la langue française, c'est aujourd'hui 23 000 pages dans sa version papier, plus de 100 000 mots traités, 430 000 citations, c'est énorme, 16 volumes qui sont parus de 1971 à 1994. 1994, on le sent bien, c'est une date qui nous est chère, c'est le tricentenaire du dictionnaire de l'Académie française, de la première édition. C'est en même temps le lancement du volume de la 9e, donc on a là quelque chose d'important. Comment les choses se sont déroulées? En 1957, à Strasbourg, a lieu un colloque décisif, je n'aime pas cet adjectif, mais là c'est vraiment celui qui convient,
autour
de Paul Imps.
Alors Imps, I-M-B-S.
Qui est donc de Strasbourg, germaniste, latiniste, donc grand romaniste, qui a un projet grandiose, un trésor général de la langue française, où il veut que les meilleurs romanistes et lexicologues se retrouvent. Il y invite Bernard Quémada, parce que ses travaux font déjà du bruit.
Robert.
Il y invite effectivement Paul Robert, dont le dictionnaire est en train de s'achever, un dictionnaire de grand succès, loué par l'Académie française, d'ailleurs, qui est très admiratif devant ce travail, qui, d'une certaine façon, est un nouveau Littré, hein, c'est la suite de Littré, un vrai nouveau Littré. Et donc, on se retrouve là avec un projet qui va rassembler vraiment les grands romanistes, les hommes d'action comme Paul Robert et Bernard Quémada comme homme d'avenir, pionnier. Et puis, bon, à la fin du congrès de 1957, est pris l'engagement d'une grande œuvre à construire. Puis les années passent, mais pas très longtemps. 1959, le général de Gaulle, qui reprend le pouvoir, souhaite donner un nouveau souffle au CNRS. Et là, il sent bien qu'il y a un grand projet du côté de l'atome, évidemment, mais il manque quelque chose du côté des sciences humaines. Et c'est là qu'un, l'idée d'un grand dictionnaire national tombe à point nommé. Et en 1961, Paul Imms décroche l'idée que ce pourrait être le projet et on achète le plus gros ordinateur du monde du moment,
le Gamma 60 Bulle.
Voilà. Et c'est Bernard Quémada d'ailleurs qui est à l'origine de cet achat. Les cahiers de lexicologie.
Achat par le CNRS ?
Oui, voilà. Les cahiers de lexicologie. Alors, c'était une énorme machine, hein. On est loin du petit ordinateur d'aujourd'hui. Et les cahiers de lexicologie naissent en 1959. Et puis, eh bien, on enregistre sur ce Gamma 60 Bulle énormément de textes. 3000 textes vont être par des clavistes enregistrés. Sur d'abord une bande mécanographique, devenue vite bande magnétique, d'où le Gamma 60 Bulle. Puis, évidemment, avec les moyens informatiques, on va cesser de progresser dans l'enregistrement des données. Et c'est à partir des informations tirées des textes enregistrés sur support magnétique qu'on construira le dictionnaire. Pour le dire en deux mots, au lieu de fouiller, comme l'avait fait Littré, avec des fiches, ce qui était un très beau travail déjà dans la littérature, là, c'est la machine qui a tout Balzac, tout Zola et d'autres écrivains, plus quelques revues scientifiques, et la machine va chercher toute seule, pour le mot, je ne sais pas, dictionnaire, par exemple, eh bien, les citations, les phrases dans lesquelles sont insérés
les
mots comme dictionnaire.
Alors,
et à partir de là, on construit.
Tout ça se passe à Nancy.
Tout ça se passe à Nancy, c'est parti de Strasbourg, ça se passe à Nancy parce que Paul Imms est nommé recteur, et c'est là que s'installent les bureaux du Trésor de la langue française, aujourd'hui la TILF.
Et alors Bernard Quémada se verra confier les 9 volumes suivants.
Alors Bernard Quémada, en réalité, qui était dans le projet au départ, rêvait que ce soit à Besançon, ça ne se fera pas, ça se fera à Nancy, et à la disparition de Paul Imms, c'est lui. Et ça ne peut être que lui à qui on confie la suite. Et c'est lui qui va diriger les 9 volumes qui vont suivre, avec des préfaces pour beaucoup de ces volumes, une postface remarquable. Et il va avoir cette idée extraordinaire qui consiste à faire du TLF un pétale d'une fleur plus vaste, plus large. C'est souvent son image. En réalité, il va construire l'INALF, l'Institut National de la Langue Française. Et cet INALF aura pour objectif de rassembler toutes les forces linguistiques en présence, aussi bien nationales qu'internationales d'ailleurs. Et beaucoup de laboratoires vont être un autre pétale, le TLF étant évidemment un des plus gros pétales, mais d'autres laboratoires seront des pétales de cette fleur. Et pour lui, il n'a accepté le projet que dans cette idée d'harmonisation, cette idée de rassemblement. Le TLF va bien entendu en être nourri pleinement et ça va donner à la linguistique un essor extraordinaire.
Ils sont toujours à Nancy ?
Alors, ils sont toujours à Nancy. Bernard Quémada, donc, évidemment, pris sa retraite. Ensuite, il a dirigé le Conseil supérieur de la langue française. À sa succession pour l'INALF, il y a eu donc Robert Martin, qui a donc dirigé de manière magistrale le dictionnaire du moyen français. Puis a suivi Bernard Cerchiglini, qui lui a vraiment dans le droit fil de l'œuvre de Bernard Quémada, droit fil, je dirais, informatique, novateur, pionnier, fait en sorte que le TLF soit sur support Internet. Et ce faisant, on aura un mariage bientôt avec l'Académie, qui elle aussi n'est pas du tout la vieille dame qu'on croit. Je ne dis pas qu'elle a une mini-jupe non plus, mais qui est très moderne et qui, bien entendu...
Nous sommes là pour en témoigner.
Voilà, va s'associer aussi aux supports informatiques. Et aujourd'hui, sur support informatique, on passe facilement du TLF à Internet. Et ce sont nos 2 grands dictionnaires institutionnels.
Alors, 1971, 1994, nous l'avons dit, 300e anniversaire de la première édition du Dictionnaire de l'Académie, 1694. Alors venons-en à cette 9e édition. Si la 8e assurait le passage du 19e au 20e siècle, la 9e jette un pont entre le 20e et le 21e siècle. Son secrétaire perpétuel est M. Maurice Druon, Et c'est la première fois que nous évoquons le nom d'un contemporain.
Oui, c'est bon. Évoquer Maurice Druon, c'est pour tout ce XXe siècle, et XXIe maintenant, évoquer un grand écrivain, un homme qui a joué un rôle dans l'histoire. Il est né, on le sait, en 1918. Il écrit en 1946 « La dernière brigade ». Et si j'évoque 1946, donc une date postérieure à la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que cette dernière brigade est tirée de la bataille de son expérience, de la bataille de la Loire, à laquelle il a participé donc en 1940. On sait aussi qu'en 1943, il a composé avec son oncle, Joseph Kessel, le chant des partisans, bon, que tout le monde connaît, qui a eu un rôle extraordinaire. Il a eu le prix Goncourt en 1948 avec Les Grandes Familles. Et là aussi, c'est quelque chose de moderne. On rentre dans un nouveau siècle, puisque on sait bien qu'il y en a eu des adaptations cinématographiques, télévisuelles. Va venir aussi le succès des Rois
le
maudits.
Le vif succès.
Alors moi, c'était...
Que j'ai revu récemment.
La première œuvre que j'ai lue.
L'auditorium du Grand Palais.
Voilà, donc les Rois maudits, grande aventure. C'est entre 1955 et 1977. C'est l'histoire romancée des Valois. Ensuite, on sait aussi que Maurice Druon a été ministre des Affaires culturelles, de 1973 à 1974. Il a été député RPR de Paris de 1978 à 1981. Il avait été élu académicien depuis 1966. Et en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie française, c'est à lui qu'on doit aussi le renouveau peut-être éditorial du dictionnaire de l'Académie. Il tenait absolument à ce qu'il y ait une version de poche. Alors vous voyez, tout à l'heure on évoquait le petit dictionnaire de l'Académie, mais là on est passé dans une autre ère. En réalité, il y a deux manières de faire un petit dictionnaire, c'est soit de le diminuer, on est toujours perdant dans l'information, soit de l'offrir dans une version moins luxueuse typographiquement, mais une version de poche. Et là, bon, il a joué évidemment un grand rôle, et on lui doit, dans le fond, le lancement éditorial de cette neuvième édition, avec beaucoup, je crois, d'énergie.
La neuvième édition, comme la huitième.
Quand je dis je crois, c'est une formule avec, j'en suis sûr, beaucoup d'énergie. Tout le monde le sait.
La neuvième édition, comme la huitième, paraît en fascicule. Le premier date de 1986.
Le voilà. Avec un fond bleu et le palais de l'Institut. C'est une belle
en premier plan. Le secrétaire perpétuel, là encore, c'est une nouveauté, en signe la préface en 1986 et l'avertissement en 1992. Comme toujours, cher Jean Prouvot, tant la préface que l'avertissement représentent à la fois la pérennité, mais aussi un renouveau.
Alors, effectivement, une préface, on l'a vu avec celle de 1694, c'est fondamental. Lorsque mes étudiants étudient la préface de la première édition du dictionnaire de l'Académie, ils tombent des nues. Ils voyaient en l'Académie quelque chose d'institutionnel, de remarquable, mais ils ne pensaient pas être confrontés à des gens qui connaissent aussi bien la langue et qui soient des linguistes, même si le mot, je crois, ne plaît pas beaucoup à Maurice Druon, mais l'Académie est une grande linguiste au sens très noble du terme. Et du même coup, cette préface à la 9e édition revêt une importance particulière puisque d'abord l'ouvrage va être publié en fascicule que j'ai pu acheter en leur temps, puis après va être publié donc en un volume en 1994, puis d'autres volumes vont suivre. Aujourd'hui on peut se la procurer chez Fayard en deux volumes.
Je viens de le faire.
Voilà, et donc il y a à la fois la préface puis un avertissement. Alors préface, elle date elle de 1986. L'avertissement date de 1992. Alors cette préface, d'abord en épigraphe, et je trouve ça heureux, Maurice Druon, puisqu'il la signe, il y a des préfaces anonymes, celle-ci est signée, Maurice Druon, secrétaire perpétuel, on donne un des éléments des statuts et règlements de l'Académie française, donc en 1635, à sa création. Et on rappelle, la principale fonction de l'Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. Donc là, on donne le ton. J'aime beaucoup aussi, je l'ai d'ailleurs donné dans ce dictionnaire de citations, m'a fait le plaisir, l'honneur d'en parler dans une émission. Voilà ce que les trois premières lignes de cette préface. Les doléances et les plaisanteries que suscitent les lenteurs du dictionnaire sont presque aussi anciennes que l'Académie elle-même. On voit bien qu'effectivement, la lenteur de l'Académie, elle est tout le temps brocardée. Il n'en reste pas moins que les dictionnaires sont là et que ce sont quand même depuis
la référence.
5 siècles, 9 dictionnaires qui se succèdent et qui font référence. Alors, j'aime aussi beaucoup cette phrase, d'ailleurs je l'ai aussi reportée dans ce dictionnaire de citations. Le dictionnaire de l'Académie est celui de l'usage, simplement et suprêmement le dictionnaire du bon usage, qui par là sert ou devrait servir de référence à tous les autres. Donc ça, je trouve que c'est bien de le rappeler, c'est bon de
et il y a fort à faire.
L'usage. Et là aussi, il y a dans cette préface à laquelle je suis très attaché, tout un développement sur le français qui a gardé son unité. Et voilà ce qui est dit, il a gardé son unité, et non seulement pour la nation où il s'est formé, mais aussi pour toutes celles anciennes ou récentes dont il est langage usuel, ou l'un des langages principaux, ou le langage conjonctif, ou le langage de communication avec le reste du monde. La francophonie
est présente,
voilà,
à l'esprit.
Et dit-il, la francophonie, réalité neuve, est une communauté de faits qui peut devenir un jour communauté de droit. Là, je vais peut-être faire une confidence. Bon, j'ai eu la chance, dans un colloque à Paris organisé par notre ami Giovanni Dottoli, de me trouver à table avec Maurice Druon et d'être à sa gauche. Et donc, évidemment, de quoi avons-nous parlé ?
De dictionnaire.
Il a eu la gentillesse de répondre à mes attentes sur les dictionnaires et sur la conception de la langue. Et je ne sais pas comment la conversation a dévié sur une formule, la langue en partage, que j'aime beaucoup. Et il m'a confié que c'était lui.
C'est lui, c'est lui,
c'est
bien
lui
sûr, bien
qui,
sûr.
Qui en est vraiment l'auteur et de longue date.
Nous avons fait ici deux émissions sur les pays qui ont le français en langue.
Voilà, et cette formule, la langue française en
partage.
Français
en partage.
Bon, quelque chose de beau, parce que c'est la langue française. Et évidemment, la 9e édition est la première édition qui fasse référence. Le petit Larousse, le petit Robert aussi, bien sûr, mais eux sont millésimés. Et donc là, on est dans un grand dictionnaire qui le prend en compte. C'est important. On le voit bien d'ailleurs aux élections de l'Académie française, où la francophonie est présente. Alors voilà, pour évoquer ceci, il y a évidemment des spécificités à cette 9e édition. Alors voulez-vous peut-être...
Nous poursuivons notre chemin entre les deux haies épineuses du purisme et du laxisme.
Ah, c'est une belle formule.
Une phrase que j'aime bien aussi. Le particularisme académique demeure, mais le dictionnaire de l'Académie poursuit son évolution à son rythme, en fonction de sa propre logique interne, de l'apport des sciences des mots, des nombreux référents et des facteurs extra-linguistiques.
Oui, et là, tout ce que nous avons dit sur la 8e édition, avec l'Académie qui, la direction de René Doumic, doit réfléchir aux
bon
mots
usage.
Nouveaux, au bon usage, et en même
néologisme,
temps
néologisme, lesquels,
voilà.
Le bon usage,
je crois que la 9e édition, j'en suis même sûr, règle cela harmonieusement, avec le recul, comme toujours, comme il convient. On vient d'évoquer les mots de la francophonie, mais là, Maurice Druon rappelle au lecteur que par rapport à l'édition de 1935, qui comptait environ 35 000 mots, la présente édition comportera quelques 10 000 mots nouveaux. Ça nous monte à 45 000, 50 000. Quand on y réfléchit, et c'est là où je me rends compte dans mes cours que souvent je suis aussi en porte-à-faux. Parce que quand on évoque la langue française, ou toute langue, grande langue en général, on dit 3 000 mots de vocabulaire de base, 30 000 mots de culture générale, et 25 000, en gros, mots spécifiques, ce qui nous fait aboutir aux 60 000 mots du petit Larousse et du petit Robert, qui nous donnent une unité quantitative. On comprend bien qu'un dictionnaire de 20 000 mots, ça ne fonctionne plus. Un dictionnaire de 60 000 mots, c'est beaucoup. Mais un dictionnaire de 30 000 mots, ce n'est pas assez. Et là, quand on est autour de donc 45 000 mots nouveaux, c'est la bonne mesure, je le crois. Parce que on est dans ce mot qui va nous donner, je ne sais pas, voiture, bagnole, vocabulaire de base et vocabulaire familier. Dans vocabulaire de culture générale, on aura berline, on aura cabriolet, on aura etc. Et puis
limousine.
Limousine, voilà, pour rêver. Mais on aura des mots du moteur. Alors, carburateur, bien sûr, fait déjà partie du vocabulaire technique, mais on ne peut pas l'éliminer.
La bougie.
Hein, bougie, on ne peut pas l'éliminer, ce sens-là. Et là, on va donc se trouver petit à petit, on le voit dans le domaine informatique aussi, avec des mots qui débordent des 30 000 mots de culture générale, pour être vraiment dans des mots techniques, mais connus de tous. Quand on dit « boguer », quand il y a d'autres mots pour le dire, bien entendu, eh bien... on est bien obligé d'être dans le vocabulaire ici spécifique et en même temps un vocabulaire qui dépasse les 30 000 premiers mots de la langue. Donc ça, c'est je crois, une remarque forte vis-à-vis de la langue et de ses néologismes, les néologismes de bon aloi, bon, avec le recul qui convient à l'Académie française.
Alors le renouveau.
Oui, renouveau fort et en même temps pérennité. Bon, c'est tout le talent de l'Académie française. Renouveau. Parce que quelque chose qui manquait, peut-être déjà à la 8e édition, mais pas encore vraiment, mais qui aurait manqué à la 9e, assurément, va être ajouté. C'est ce qu'on trouve dans le Petit Larousse, dans le Petit Robert, dans tous les dictionnaires, disons, pour les élèves et pour le public en général, c'est l'étymologie.
Dont, en fait, l'Académie avait la nostalgie depuis le début.
Ah oui, là, vous faites bien de le dire, depuis le début, on souhaite mettre l'étymologie. Bon, à raison, je crois, elle ne l'a pas mis, elle se serait vraiment empêtrée pendant longtemps. Elle a failli faire ce dictionnaire historique de la langue française, on en a souvent parlé. Et là, elle voulait trop bien faire. Bon, mais là, il s'agit en un temps, et là je vais citer l'avertissement de 1992, parce que je trouve que Maurice Druon le dit avec beaucoup d'élégance, comme toujours, en un temps, le nôtre, où de toute évidence, la connaissance du latin et du grec se raréfie, parce qu'ils sont hélas de moins en moins enseignés, il nous est apparu d'un réel intérêt de rappeler, fût-ce brièvement, que la plupart de nos vocables plongeaient leurs racines profondément dans ces deux langues anciennes. Aussi, pour la première fois dans l'histoire du dictionnaire de l'Académie, c'est-à-dire depuis 3 siècles, la définition de chaque nom ou terme sera précédée d'indications étymologiques. Là, j'ai une confidence aussi à faire. Dans ce dictionnaire de citations que j'évoquais, j'ai souhaité donner très rapidement l'étymologie donc, de chaque mot. Or, c'était juste là aussi, non pas pour faire œuvre étymologique, pour la rappeler, pour montrer que le mot a quand même une puissance étymologique, historique, qu'il est bon d'avoir en tête quand on recherche de la culture et donc des citations. Et très souvent, je suis allé consulter le dictionnaire de l'Académie, parce que, mieux que tous les autres, il dit en peu de mots, en termes pédagogiques très sûrs, l'essentiel. Et savoir dire l'essentiel avec élégance, c'est quand même ce qu'a toujours su faire l'Académie. Et là, elle le fait fort bien dans l'étymologie.
C'est tout un art.
Alors, j'ai même regretté, d'ailleurs, que le dictionnaire ne soit pas achevé, parce que pour la fin de l'alphabet, bah, je manquais de ce support.
À partir de la lettre N.
Voilà.
Puisqu'ils en sont à la lettre M.
Nos petits Larousse et nos petits Robert le font bien aussi, généralement. Mais l'Académie le fait avec beaucoup d'élégance.
Alors, remise en ordre logique de chaque article également.
Oui. Alors là, on revient à notre propos de départ. On a évoqué Hatzfeld et Darmesteter,
voilà.
Le dictionnaire général, pour en abréger le titre, avec grand 1, petit 1, petit 2, dont s'est emparé très rapidement, avec justice, le petit Robert. Et Josette Redebeuf rend hommage, d'ailleurs, et à l'arrêt à Hatzfeld et Darmesteter. Et tous les dictionnaires du XXe siècle ont choisi de numéroter. Le petit Larousse l'a fait aussi, il ne le faisait pas au tout début.
Ils en gagnent en netteté.
Voilà. Et l'Académie, eh bien, là aussi, a décidé de prendre une organisation hiérarchisée, en quelque sorte, des sens, avec une numérotation. Donc ça, c'est quelque chose aussi de précieux.
Des néologismes, nous l'avons vu, sans excès, disent-ils, mais sans parcimonie, dit M. Druon dans sa phrase.
Bien sûr.
Sans excès, mais sans parcimonie. Et l'introduction, autre nouveauté, de titres d'œuvres célèbres.
Oui.
Alors ça aussi, ça mérite
alors, ça,
d'être
c'est,
développé.
Ça, c'est intéressant.
Pas de citation, mais...
Mais des titres. Alors, on ne recourt pas donc à la citation littéraire habituelle. Mais si on prend par exemple le mot « bestiaire », on aura Tendre bestiaire de Maurice Genevoix, 1969. Si on prend le mot barbare, on aura Sous l'œil des barbares, un titre donc d'ouvrage de Maurice Barrès, on l'a reconnu en 1888. Si on prend bleu, eh bien forcément Barbe bleue, conte de Charles Perrault. Et puis alors, mauvais souvenir et bon souvenir, parce que quand je suis arrivé en première année d'université, notre professeur d'alors, pour jauger notre culture, nous avait dit « Donnez le nom de l'écrivain des œuvres suivantes ». Et il nous avait donné le roman bourgeois. Et je n'avais pas été capable à l'époque de mettre en face Furetière. Mais l'Académie l'a le met. Bourgeois, le roman bourgeois de Furetière, 1666, avec en gras donc l'entrée sous laquelle le titre apparaît. Et puis il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est des remarques normatives.
Voilà.
Et là, bon,
bien visible.
Bien visible. L'Académie s'est toujours défaussée de la norme en disant qu'elle décrivait l'usage, et que c'est l'usage qui faisait norme, mais qu'elle ne voulait pas, en quelque sorte, faire un discours normatif, mais descriptif du bon usage. Mais là, elle, avec courage et en même temps, je crois, de manière judicieuse...
On a abandonné les notations familier, voilà. Populaire, vulgaire, argotique, trivial.
Voilà. Et par exemple, pour démarrer, dans le petit 2, on aura cette remarque. On ne doit pas dire « démarrer une voiture », mais la faire démarrer. Ni au sens figuré, « démarrer une émission de radio, de télévision », mais la « commencer ». Et, écoutez, c'est ma journée des confidences. Ma plus grande honte a été la quatrième de couverture d'un que sais-je sur les dictionnaires français. Je l'avais bien rédigé. Je crois même très bien rédigé. Et puis quelqu'un est passé derrière moi parce que c'est un peu long. J'ai tendance à être un peu long. Et là...
parce que vous avez beaucoup à dire.
Oui, la réduite. Et j'ai fait confiance et j'ai dit c'est très bien. Et quand m'est arrivée cette quatrième de couverture, que vois-je, que lis-je? Je lis « La chronologie a démarré
».
Et là, je me suis dit, voilà, un dictionnaire que je veux envoyer un que sais-je que je voulais envoyer à l'Académie française et auquel j'ai systématiquement été obligé de mettre un petit mot en disant « La quatrième couverture n'est pas de moi ». Parce que tout commençait un peu sur le mode diesel, démarrer une chronologie, c'était pas formidable. Mais voilà, comme quoi ces remarques sont utiles.
Très
parce que la personne qui a, avec mon aval, donc je ne sais même plus qui c'est, peu importe, mais a réduit mon texte en m'étant démarré, si elle avait consulté le dictionnaire de l'Académie, elle aurait mieux rédigé. Alors on voit, baladeur doit être préféré à l'anglais, walkman, coincé, cet emploi figuré est inélégant, etc. Mais c'est très utile. C'est très utile. On a tendance à se gausser en France des remarques normatives et on est les premiers à chercher quelle est la norme, ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. Nos amis québécois sont, sur ce plan-là, bien plus sains, ils n'hésitent pas.
Et plus directifs.
Et plus directifs.
Le dictionnaire s'ouvre aux supports informatiques.
Oui.
Ça, c'est tout un univers.
C'est un bel univers.
Un saut technologique considérable. La mémoire magnétique et la photocomposition permettront au dictionnaire de l'Académie d'accompagner l'évolution de la langue, mieux et plus vite. L'évolution du lexique, les acceptions nouvelles pourront être prises en compte immédiatement et figurer dans les rééditions qui seront de plus en plus rapprochées. Tout ceci se trouve dans la présentation du tome 1 à la presse.
Oui, et là, alors, on a évidemment l'impact de Maurice Druon. On va voir aussi l'impact de quelqu'un qui a un rôle exceptionnel pour le dictionnaire. C'est bien entendu le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Hélène Carrère-Dancausse. Et ce soin accordé à une publication sans trop d'écart entre le moment où c'est rédigé et le moment où c'est diffusé. Or, c'est vrai que sur le dictionnaire papier, avec le dictionnaire en papier, de papier, on est forcément contraint d'avoir un tome d'achevé, un volume de rédigé, alors qu'avec l'électronique, avec l'écran, avec le support électronique, on peut faire profiter le public des travaux qui viennent d'être faits il n'y a pas trop longtemps. Donc ça, l'Académie a fait vraiment, là aussi, une révolution technologique, une révolution technique. Un saut très important, en même temps que, dans le fond, le Trésor de la langue française avait donné la voix derrière Bernard Cerchiglini, qui avait souhaité que le Trésor de la langue française soit gratuit sur Internet. Et là, je crois qu'il faut insister, on a deux dictionnaires qui sont institutionnels, Le Trésor de la langue française par le CNRS, le Dictionnaire de l'Académie française par l'Académie, et ces deux dictionnaires, loin d'être en concurrence, et puis loin d'être comme souvent on le dit, de ce qui relève de l'institution et pas de l'entreprise privée, loin d'être à la traîne, parce que justement ils sont libérés des aspects financiers, et que ce sont des dictionnaires, il faut toujours le rappeler, qui ont été faits sans intéressement des académiciens, hein, gratuitement, pour le TLF, le CNRS, ce sont des gens du CNRS, ils n'étaient pas payés, spécialement pour cela. Ça a donné une liberté, justement, à ce mouvement Internet qui repose sur une forme de gratuité. Donc là, c'était presque justice, les dictionnaires institutionnels ont pris de l'avance, en offrant gratuitement leurs travaux.
Et reconnaissent mutuellement leur valeur.
Sur les sites, on passe de l'un à l'autre, on passe aussi d'une édition à l'autre. Enfin, j'entends les éditions précédentes. On y retrouvera aussi des dictionnaires du 18e, on pense à l'abbé Ferraud, tout ça est en lien, et c'est quand même quelque chose de très, très précieux.
Oui, reconnaissance mutuelle des deux grands dictionnaires institutionnels. Celui de l'Académie,
c'est un beau symbole. Oui,
et le TLF, c'est un beau symbole, c'est une bonne chose.
Et en même temps, je ne voudrais pas aussi qu'on croie que je suis en train de tailler des croupières au dictionnaire privé. Il est très utile, hein. Qui est le petit Larousse et le petit Robert chaque année avec un millésime, c'est précieux.
Bien sûr.
Bon, c'est très intéressant pour, évidemment,
tous
suivre
la langue. Tous ces dictionnaires sont complémentaires.
Oui, c'est très complémentaire, c'est une énorme chance de la France.
Alors parlons enfin d'une contemporaine cette fois. Madame Hélène Carrère d'Encausse, le secrétaire perpétuel est une femme.
Oui, et alors j'allais dire quelle femme, parce que là aussi, je continue dans les confidences, c'est la journée des confidences, j'ai eu la chance, donc nous avons eu la chance
de la rencontrer récemment,
voilà, de Sergi Pontoise, que Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française vienne donc ouvrir cette journée des dictionnaires. J'avais eu la chance aussi, il y a 2 ans, que pour une journée dictionnaire consacrée donc au dictionnaire et l'institution, donc à l'Académie française et au CNRS, ce soit Gabriel Debreuil, chancelier de l'Institut, qui vienne. Donc, mes étudiants, pour ceux qui avaient eu, pas les plus récents, mais ceux qui ont déjà vécu cette inauguration, ils ont l'Académie française en tête, et avec une image très différente de ce que pourraient avoir des jeunes qui voient parfois quelque chose d'un peu austère, etc. Ils ont en tête quelque chose de moderne, la terminologie d'un côté qu'avait développé Gabriel Debreuil, et puis alors le formidable discours reconnu par tous qu'a tenu Hélène Carrère d'Encausse en ouvrant cette journée des dictionnaires. Discours qui montrait sa modernité, qui montrait l'inquiétude qu'elle avait aussi devant les nouveaux supports, et donc la réflexion de l'Académie française sur le sujet. L'inquiétude par rapport à l'histoire, c'est-à-dire que Internet, d'un côté, ouvre en quelque sorte pour l'Académie française ses portes toutes grandes à ses travaux, et offre à la communauté linguistique ce qui est fait de moderne, ce qui est fait, non pas dans l'immédiat, mais en tout cas avec un minimum de recul. Et de l'autre côté, la consommation qui est faite parfois d'Internet, qui est l'immédiateté en permanence, sans penser à l'histoire, et le tout un peu destructeur. Et ça, elle l'a vraiment très bien montré. Et je peux dire aujourd'hui, puisque je viens de corriger, hélas, 300 copies consacrées donc, à tout ce qu'on fait en lexicologie, et dans lequel il y avait la journée des dictionnaires, et qu'elle a eu un franc succès, et que son discours a touché la jeunesse. Je crois qu'elle y était sensible, et qu'elle a bien compris que les jeunes sont loin de repousser ces discours. Ils veulent écouter leurs aînés. Et alors, il y a une forme de jeunesse impressionnante du langage dans cette Académie française, la manière dont elle la représente, qui est assez stupéfiante, et qu'on trouve donc dans cette 9e édition. Je crois que l'association de Maurice Druon, qui a lancé avec le livre de poche, avec les fascicules, la modernité du dictionnaire d'Académie, repris par Hélène Carrère d'Encausse, avec donc cette civilisation Internet, on a là un tandem, si je puis m'exprimer comme ça, qui aura été exceptionnel. Avoir deux secrétaires perpétuels, c'est très rare. Je crois d'ailleurs que c'est peut-être pour une édition quelque chose d'unique. Alors, peut-être dire un mot aussi, bien sûr, d'Hélène Carrère-Doncos. Hein. Elle est historienne, chacun la connaît. Elle est née à Paris, dans une famille où l'esprit cosmopolite règne et où la révolution russe avait de longue date dispersé les membres à travers l'Europe. Hein. Elle compte d'ailleurs parmi ses ancêtres des grands serviteurs de l'Empire, des contestataires du même Empire, le président de l'Académie des sciences sous Catherine II. Elle a donc une famille qui l'a prédisposée naturellement à l'étude de l'histoire et de la science politique. Elle l'a enseignée à la Sorbonne. Sa chaire professorale s'est retrouvée ensuite à l'Institut d'études politiques de Paris. Donc elle est évidemment professeure invitée de nombreuses universités étrangères, Amérique du Nord, Japon, Université de Montréal. Là aussi, à la journée québécoise des dictionnaires, où elle n'a pas pu se rendre, elle a offert un texte qui a été lu par le consul de Québec, remarquable sur ce qu'est le dictionnaire, ce qu'est l'observation de la langue, comment l'Académie se situe vis-à-vis de cette langue. Et là, on a quasiment, je ne sais pas si ça sera une postface, mais à mon sens, ça mérite aussi d'être dans un des volumes de l'Académie française, parce qu'on comprend très bien ce qu'est l'Académie. C'était presque l'équivalent d'une grande préface, ce qui a été lu. Hein.
Une postface.
Voilà, moi je souhaiterais ça. Mais bon, je suis en train d'improviser un petit peu sur le sujet, mais c'était un grand texte. Et donc, elle a occupé aussi des postes en 92, si ma mémoire est bonne, de conseiller auprès de la Banque européenne. Et je reprends des notes là pour la reconstruction et le développement. Monde moderne, elle a été élue au Parlement européen en juin 1994. Donc on est là en pleine modernité. Et je crois que c'est ce qui fait l'énorme force de l'Académie française. Elle a été élue en 90, hein, le 13 décembre, sur le fauteuil de Jean Mistler, que j'avais eu la chance de rencontrer il y a très très longtemps, quand j'étais étudiant de Bernard Quémada. Et elle a été élue secrétaire perpétuelle, donc le 21 octobre 1999, et c'est la première femme secrétaire perpétuelle EL. Et donc, là, je crois que la grande chance de l'Académie française, et il me semble que, en tout cas, c'est le souhait que je formule à travers les émissions que nous avons offertes, et grâce à vous, Anne-Françoise, avec beaucoup de fermeté et en même temps quelque chose de très vivant, eh bien, on a montré que c'était à la fois des gens respectueux du passé, soucieux du présent, sachant prendre en compte le présent et n'étant pas hostiles à l'avenir. Et là, on est en plein dans cette période. Respecter le passé, ne pas l'oublier, ne pas le gommer d'un trait, traiter le présent, c'est ça le travail de l'Académie française. Et quand elle donne l'étymologie, c'est pour traiter le présent, parce que justement nos jeunes connaissent peu le latin et quasiment plus le grec, et donc c'est bon qu'ils aient l'étymologie. Et nos jeunes sont tout entiers souvent versés en informatique et du côté, en tout cas, des écrans électroniques, et donc là aussi, le prendre en compte, et en même temps, deviser sur les dangers de la chose. Donc ça, c'est, je crois, cette formidable synthèse qui fait cette pérennité de l'Académie française.
Avec cette 9e édition, note Madame Gabrielle Quémada dans son introduction à la préface, l'Académie française innove de manière notable. Le particularisme académique se fait ici plus proche des exigences lexicographiques de cette fin de siècle. Monsieur Druon s'exclamait en 1990 « Renouveler le conformisme ? Mais n'est-ce pas là, messieurs, ce à quoi s'emploie l'Académie à longueur de siècle ?» Seul dictionnaire synchronique à être aussi, par chaînage, le plus authentique des diachroniques, le dictionnaire de l'Académie réussit cette performance de rester inscrit, selon les mêmes termes, dans des statuts concédés voici 351 ans et qui lui ont été maintenus par l'État au-delà de 17 changements de régime constitutionnel. Ces propos sont signés de messieurs Alain Decaux, Jean Delay et Maurice Druon, dans une lettre qu'ils adressaient au Premier ministre Jacques Chirac en juin 1986. Alors, reprenant le collier de Vaugelas, je cite M. Maurice Druon, les 40 Pénélopes se remettent sans relâche à leur tapisserie.
Ah, magnifique.
Jean Prouveau, nous arrivons au terme de cette émission, au terme également de cette série, que nous avons appelé le dictionnaire hier et toujours. Mais avant de nous quitter, nous pouvons annoncer, je crois, un rab, une émission que nous consacrerons avec les académiciens au travail actuel de l'Académie. Alors à bientôt.
Merci Anne-Françoise.
Merci Jean.